Suite et deuxième temps ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la pensée de la philosophe Simone Veil. Après Laure Adler et Sylvie Veil, venue hier vous brosser le portrait d'une grande vivante douloureuse, anorexique et platonicienne. Et avant Bertrand Saint-Cernin, qui viendra demain évoquer l'engagement politique de Simone Veil, c'est de la condition ouvrière et de l'idée incarnée qu'elle s'en fait que nous allons partir aujourd'hui, en compagnie de Robert Chenavier, qui est entre autres l'auteur de Simone Veil, philosophie du travail, paru au CERF en 2001, et Simone Veil, l'attention au réel, paru chez Michalon. Du 4 décembre 1934 jusqu'en août 1935, Simone Veil a été ouvrière, pratiquant ce qu'elle appelait à l'occasion la vie réelle. Que gagne-t-elle à cette expérience? C'est précisément ce qu'elle raconte dans son journal d'usine et notamment cette page. Écoutez.
Gagner à cette expérience? Le sentiment que je ne possède aucun droit, quel qu'il soit, à quoi que ce soit. Attention de ne pas le perdre. La capacité de me suffire moralement à moi-même. De vivre dans cet état d'humiliation latente, perpétuelle, sans me sentir humiliée à mes propres yeux. De goûter intensément chaque instant de liberté ou de camaraderie, comme s'il devait être éternel. Un contact direct avec la vie. J'ai failli être brisée, je l'ai presque été. Mon courage, le sentiment de ma dignité ont été à peu près brisés pendant une période dont le souvenir m'humilierait. Si ce n'était que je n'en ai à proprement parler pas conservé le souvenir. Je me levais avec angoisse, j'allais à l'usine avec crainte, je travaillais comme une esclave. La pause de midi était un déchirement. Rentrer à 5h15, préoccupée aussitôt de dormir assez, ce que je ne faisais pas, et de me réveiller assez tôt. Le temps était un poids intolérable. La crainte, la peur de ce qui allait suivre ne cessait d'étreindre le cœur que le samedi après-midi et le dimanche matin. Et l'objet de la crainte, c'était les ordres. Le sentiment de la dignité personnelle tel qu'il a été fabriqué par la société est brisé. Il faut s'en forger un autre, bien que l'épuisement éteigne la conscience de sa propre faculté de penser. Mais force de conserver cet autre. On se rend compte enfin de sa propre importance. La classe de ceux qui ne comptent pas, dans aucune situation, aux yeux de personne, et qui ne compteront pas, jamais, quoi qu'il arrive, en dépit du dernier vers de la première strophe de l'Internationale.
Les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout.
Bonjour Robert Chenavier.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. La capacité de me suffire moralement à moi-même, de vivre dans cet état d'humiliation latente, perpétuelle, sans me sentir humilié à mes propres yeux, de goûter intensément chaque instant de liberté ou de camaraderie, comme s'il devait être éternel, un contact direct avec la vie. À lire ce passage, on se dit qu'elle a été presque heureuse en usine.
Oui, presque, presque heureuse.
On va épouser les détails de son ça. Aventure, mais quand même.
En l'occurrence, dans ce texte, d'ailleurs, elle le dit, le sentiment de sa dignité personnelle telle qu'elle le tenait de la société a été brisé. Ça ne veut pas dire que la vie, évidemment, soit brisée. C'est un personnage qui a été brisé. C'est une apparence, c'est un masque. Ce qu'elle a rencontré, c'est la vie réelle. Et resté de cette expérience, le sentiment d'avoir, en effet, éprouvé une réalité et la vie réelle.
Mais elle est partie à l'usine avec l'intention de rencontrer la vie réelle et elle est sortie de l'usine avec le sentiment de l'avoir effectivement rencontrée. Est-ce qu'elle ne se faisait pas une certaine idée de la vie en usine et est-ce qu'en somme elle ne s'est pas attachée à retrouver finalement dans l'expérience qu'elle a faite l'idée qu'elle en avait avant ?
Alors je ne pense pas, parce qu'elle écrit dans une lettre à Auguste Deteuf, qui était le fondateur de l'Alstom, la première entreprise dans laquelle Simone Veil a travaillé, elle lui écrit qu'elle est entrée à l'usine avec une grande naïveté. Et je crois qu'elle s'attendait à trouver une vie réelle, qui n'allait pas être une vie évidemment facile et heureuse, mais elle ne s'attendait probablement pas, en tant que jeune fille rebelle qui finalement avait tenu tête à toutes les autorités, elle ne s'attendait pas, je crois, à rencontrer une telle forme de malheur.
Alors une telle forme de malheur, effectivement, qui va avec la disparition de tout sentiment de dignité personnelle, avec l'humiliation et, j'allais dire presque, une humiliation inconsciente d'elle-même. C'est-à-dire le moment où l'activité, le rythme, la cadence, la monotonie de la cadence lui fait perdre toute conscience de ses actes. C'est le moment, dit-elle, où l'on ne pense plus.
Oui, c'est le moment où on ne pense plus. C'est en ce sens qu'elle a, elle a certainement conscience de rencontrer une réalité. La réalité, c'est toujours ce qu'on rencontre chez elle. Ce n'est pas ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas ce qu'on peut démontrer, ce n'est pas ce qu'on peut déduire. C'est ce qu'on rencontre. Pour le coup, peut-on imaginer ce qu'est l'usine avant de l'avoir rencontrée ? Je ne pense pas. D'accord. C'est ce qu'elle reproche d'ailleurs aux théoriciens du socialisme en disant qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans une usine, donc qu'il leur manquait quelque chose pour penser la condition ouvrière et la question sociale.
On retrouve ici une préoccupation fondamentale de Simone Veil, autour de laquelle on va tourner d'ailleurs toute cette semaine, qui est l'idée que toute idée, précisément, s'enracine d'abord dans une expérience et qu'en somme, tout homme qui n'a pas vécu ce dont il parle n'est pas légitime pour le faire.
Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, c'est quelque chose en plus qui lui est propre. Elle parle très souvent, elle en parlera très souvent à la fin de sa vie, d'une vocation qui lui est propre. Or, je crois que la vie de Simone Veil se comprend toujours par ce souci de faire se rencontrer une vocation personnelle qui est justement cette recherche du réel et d'être exposée aux formes de réalité dont on va parler. C'est absolument nécessaire à sa pensée, et c'est absolument nécessaire aussi à aux espoirs qu'elle met éventuellement dans une transformation du réel. La philosophie n'est jamais spéculative, purement spéculative.
Elle n'est pas spéculative, mais pourtant, elle procède et elle, j'allais dire presque, elle magnifie l'expérience que nous pouvons faire de l'existence. Le simple fait qu'elle repère dans la vie en usine la destruction des conditions sous lesquelles l'humanité existe et qu'elle déclare avoir reçu pour toujours, et ce pour toujours est essentiel la marque de l'esclavage en usine n'est pas innocent.
Non, bien sûr, elle a reçu pour toujours la marque de l'esclavage et ça expliquera en effet l'articulation entre les deux grandes périodes de la vie de Simone Veil, entre lesquelles, je crois, il n'y a pas rupture, il n'y a pas reniement, il y a bien une forme de passage, comme elle le dit, elle a franchi un seuil. Elle a rencontré là une expérience qui lui a certainement fait vivre tout ce que le malheur permet d'atteindre comme vérité, finalement, sur la vie et finalement, sur la spiritualité.
Aussi. Une vérité est toujours une vérité de quelque chose. Elle est l'éclat de la réalité. La vérité est toujours expérimentale, dit-elle.
Oui, c'est en ce sens que je disais, la philosophie n'est pas spéculative. Elle dit dans un passage des cahiers, la philosophie est quelque chose de pratique. Elle souligne cela. Alors c'est pas une praxis seulement au sens marxiste du terme. C'est une expérience de type personnel. D'autant plus personnel qu'encore une fois, on ne comprend Simone Veil que d'après une vocation qui lui est propre, qu'elle n'a jamais demandé à personne de partager d'ailleurs.
Alors justement, est-ce que le caractère personnel de cette expérience, on va revenir avec vous sur la différence essentielle à comprendre d'ailleurs entre Simone Veil et le marxisme, puisque autour de cette différence se noue également un débat tout à fait contemporain entre un tempérament réformiste et un tempérament révolutionnaire. Reste à savoir qui, paradoxalement, et le plus révolté des deux, ou plus exactement, le plus révolté des deux n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais on va revenir là-dessus. Mais est-ce que, avant toute chose et avant toute querelle théorique, le véritable différent de Simone Veil avec le marxisme ne repose pas justement sur le fait qu'elle ne pense pas hors d'elle-même, elle ne pense pas hors de l'expérience qu'elle fait, et que c'est peut-être ce point-là, en somme, elle ne se fait pas une représentation imaginaire ou statistique, tout simplement, de la condition ouvrière.
Oui, alors on pourrait le lui reprocher, on pourrait dire après tout c'est une expérience personnelle, on a dit c'est une expérience d'intellectuel, son amie Albertine Thévenon lui disait de toute façon la condition de prolétaire n'est pas une condition qu'on puisse épouser, c'est une condition de fait, mais en même temps ça tient, disons au génie propre de Simone Veil, qu'elle soit capable, même si elle fait une expérience d'une durée limitée, elle fera une expérience encore plus limitée en Espagne. Elle avait déjà fait une expérience limitée dans le temps, par exemple quand elle est allée en Allemagne en 1932. Mais elle a cette capacité propre, cette lucidité sur une situation qui lui permet d'en tirer assez vite, en effet, des conceptions qui diffèrent éventuellement de celles des plus grands théoriciens. Quand elle a commencé à lire Marx, elle dit « j'étais très jeune ». J'y ai vu tout de suite des contradictions, des choses qui méritaient d'être contestées. Mais j'étais jeune et je n'osais pas, évidemment, aller contre un auteur de cette envergure.
Allez-y, pardon. Oui. Non, vous avez cité Albertine Thévenot. Oui. Dans une lettre d'Albertine Thévenot de décembre 1935, elle dit ceci. « Pour moi, personnellement, voici ce que ça a voulu dire, travailler en usine. Ça a voulu dire que toutes les raisons extérieures, je les avais crues intérieures auparavant. » sur lesquels s'appuyait pour moi le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même, ont été en 2 ou 3 semaines radicalement brisés sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Et je ne crois pas qu'il en soit résulté en moi des mouvements de révolte. Non. Mais au contraire, la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même, la docilité. Ouais. Une docilité de bête de somme résignée. C'est quand même stupéfiant d'abord d'imaginer Simone Veil docile et d'imaginer surtout qu'une Simone Veil docile puisse dire d'elle-même qu'elle a été docile. Non, Robert Chenavier ?
Oui, c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Je crois qu'elle l'explique, je ne sais plus si c'est dans une lettre à Victor Bernard ou dans une lettre à De Teuf, où elle dit finalement, quand je rencontre quelqu'un qui a sur moi une autorité contre laquelle je ne peux pas aller, ce qui est le cas du contremaître à l'usine, par exemple, eh bien, je considère cette autorité comme la pluie, la neige ou une intempérie. C'est-à-dire, ça devient comme une nécessité naturelle contre laquelle je ne peux rien. Et je crois que ce qu'elle a rencontré à l'usine, c'est une forme de nécessité qu'elle ne soupçonnait pas dans le social, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la dureté matérielle, qui ressemble à la dureté d'une nature indifférente qui nous paraît hostile et qui est brutale pour notre chair et qui est brutale pour notre esprit. Comment peut-il y avoir une réalité aussi indifférente à l'humain dans le social ?
Alors on va aller justement dans la description et plonger avec Simone Veil dans la description qu'elle fait de ce parcours en usine. Un extrait ici de son journal d'usine dans lequel d'ailleurs elle décrit la personne d'un beau gars. Comme elle dit, elle était assez attentive bizarrement à la beauté des hommes. Elle parle de ce beau gars, ce contremaître qui lui donne des ordres d'ailleurs d'une voix assez douce. Et c'est étonnant, écoutez.
L'après-midi, fatigue, augmentée par l'atmosphère étouffante. Chargé d'odeurs, de couleurs, vernis, etc. Je me demande si je pourrais maintenir la cadence. Mais à 4 heures, Martin, contremaître, un beau gars, à l'art et à la voix affable, vient me dire bien poliment « Si vous n'en faites pas 800, je ne vous garderai pas. Si vous en faites 800 les 2 heures qui restent, je consentirai peut-être à vous garder. Il y en a qui en font 1200. » Je force. La rage au cœur, et j'arrive à 600 l'heure, en trichant un peu sur le compte, le sens des pièces. À 5h30, Martin vient me prendre le compte et dit « ce n'est pas assez ». Puis il m'aide à ranger les pièces d'une autre, laquelle n'a pas un mot ni un sourire d'accueil. À 6h, en proie à une rage concentrée et froide, je vais dans le bureau du chef d'atelier et demande carrément « est-ce que je dois revenir demain matin ?» Il dit assez étonné « revenez toujours, on verra, mais il faut aller plus vite. » Je réponds, je tâcherai, et pars. Au vestiaire, étonnement d'entendre les autres caqueter, jacasser, sans paraître avoir au cœur la même rage que moi. Au reste, le départ de l'usine se fait en vitesse. Jusqu'à la sonnerie, on travaille comme si on en avait encore pour des heures. La sonnerie n'a pas encore commencé à retentir, que toutes se lèvent comme mues par un ressort, courent pointées, courent au vestiaire, enfilent leurs affaires en échangeant quelques mots, courent chez elles. Moi, malgré ma fatigue, j'ai tellement besoin d'air frais que je vais à pied jusqu'à la Seine. Là, je m'assieds au bord, sur une pierre, morne, épuisée, et le cœur serré par la rage impuissante, me sentant vidée de toute ma substance vitale. Je me demande si, au cas où je serais condamnée à cette vie, j'arriverai à traverser tous les jours la Seine sans me jeter une fois dedans.
Robert Chenavier est notre invité aujourd'hui dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la pensée de la philosophe Simone Veil, à ne pas confondre naturellement. Robert Chenavier, qui est notamment l'auteur de Simone Veil, L'attention au réel, paru en 2009 chez Michalon, un excellent livre, et qui est également l'auteur, Robert Chenavier, de la présentation et des notes de La condition ouvrière, qu'on trouve en folio essai. Robert Chenavier, on vient d'entendre donc un extrait de son journal d'usine, magnifiquement lu par Anne Brissier, dans lequel donc Simone Veil se propose presque de se jeter dans la Seine, sans d'ailleurs y trouver la force. On la voit ici docile, résignée, obéissante, désespérée et presque sans énergie, presque amorphe. C'est une Simone Veil d'ailleurs tout à fait étonnante qu'on retrouve ici. Mais je voudrais comprendre une chose. Comment se fait-il que Simone Veil, ce tempérament insensé qui était le sien, comment se fait-il que Simone Veil ait été révolutionnaire avant d'entrer en usine et renoncer d'une certaine façon à la révolution après ce séjour en usine où pourtant elle fait des expériences qu'elle décrit comme ça?
Elle a été révolutionnaire, certainement. Bon, elle a suffisamment fréquenté les milieux du syndicalisme révolutionnaire, elle y a suffisamment milité, elle y a suffisamment eu d'amis pour qu'on puisse dire qu'elle a été révolutionnaire. Je crois que son passage en Allemagne en août 1932 a été déterminant, parce qu'elle a vu là que la question sociale se posait d'une façon tellement tragique en Allemagne, alors qu'en France...
Plus encore que son séjour en usine, vous diriez?
Ah, je crois qu'elle est revenue d'Allemagne, elle a dit ou elle a écrit à son ami Urbain Thévenon, donc le mari d'Albertine, qu'elle avait perdu absolument toute confiance dans le Parti communiste au retour d'Allemagne et que toute sympathie pour un type d'action révolutionnaire comme celui du Parti communiste était certainement quelque chose qui devenait criminel pour elle. Et elle n'est guère plus tendre pour le syndicalisme révolutionnaire qu'elle trouve finalement... finalement trop peu méthodique. Trop peu méthodique.
J'ai perdu en Allemagne tout le respect que j'éprouvais encore pour le parti. Exactement. Le contraste entre ces phrases révolutionnaires et sa passivité totale est trop scandaleux. Ouais. À l'époque, ce qu'elle reproche au Parti communiste, c'est le décalage entre l'emphase, entre la logorée et la nullité des pratiques. Est-ce que plus tard, cette façon qu'elle a de se détourner de la révolution ne lui vient pas encore une fois peut-être du caractère très incarné de l'expérience qu'elle fait?
Oui, ça joue certainement un rôle. Je pense que le point de vue révolutionnaire de Simone Veil, c'est certainement d'abord un point de vue philosophique. Mais bon, la vérité étant toujours révélée par un contact avec la réalité, bah, il est vrai qu'au contact avec la réalité, celle d'Allemagne et puis celle de l'usine, effectivement, elle considère que la révolution a toujours été considérée comme un grand moment politique, un moment de bouleversement, alors que la révolution est un travail. Elle le dit aussi à Urbain Thévenon, elle lui écrit « La révolution est un travail ». Donc il ne s'agit pas simplement d'attendre le grand soir. Elle dit bien que la révolution n'est pas seulement l'espoir, finalement, de transformer le monde. Encore faut-il travailler à la réalisation des conditions réelles pour transformer le monde. Et d'une certaine manière... Le marxisme et la doctrine de Marx elle-même, puisque finalement elle remonte jusqu'à la doctrine de Marx elle-même, elle considère que ses doctrines ou que ses actions révolutionnaires n'ont jamais suffisamment tenu compte de ce qui était, de ce qu'était la réalité sociale.
Au motif que Marx voulait sortir du travail ?
Alors, en partie, bon...
Alors qu'elle prétendait s'y inscrire, Simone Veil n'est pas hostile au travail. D'ailleurs, et on le dira jamais assez, Simone Veil n'est pas non plus forcément hostile au patron. Elle parle avec eux.
Elle échange des correspondances avec eux. Alors d'où le débat, était-elle révolutionnaire, était-elle réformiste? Bon, je crois qu'elle garde toujours en tête que la révolution, on peut garder en tête la notion de révolution comme une limite théorique aux transformations sociales réalisables. Car il faut toujours avoir en tête un idéal, mais qui tienne compte des limites de ce qui est réalisable. Qu'est-ce qu'elle reproche à Marx? D'avoir été victime d'un défaut qui est celui des temps modernes, d'une certaine manière, qui est l'extrapolation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le capitalisme a permis de développer les forces productives, comme on le sait, après la révolution industrielle, alors on a considéré que ce développement pouvait se poursuivre d'une façon systématique. Marx considérait que seuls les rapports de production trop étroits empêchaient le développement des forces productives, jusqu'à éventuellement la disparition du travail, une automatisation complète ou quasi complète des tâches. Et cela, si Simone Weil dit, c'est certainement la grande erreur de Marx, d'avoir cru à ce développement illimité qui est en contradiction finalement avec les conditions réelles de l'existence d'une société.
Alors on va revenir sur l'objection systématique qu'elle formule contre Marx, ou plus exactement l'objection antisystématique qu'elle formule à l'encontre de Marx. Restons un instant peut-être dans la psychologie de Simone Weil, puisqu'après tout, quand on lit Simone Weil, on ne sort pas non plus de sa psychologie, de son âme, dirait-elle.
Elle préférerait sans doute.
Oui, voilà. Alors donc restons dans l'âme de Simone Weil et soyons lui fidèle. Est-ce que Simone Weil ne refuse pas la révolution au motif peut-être fondamental qu'en somme c'est quelqu'un qui toute sa vie a refusé de se faire plaisir et qu'il y a quelque chose d'extrêmement confortable dans le goût d'une révolution qui en somme n'engage à rien, puisqu'on peut se flatter à l'infini d'espérer un lendemain qui chante ou un grand soir et la journée et le reporter toujours au lendemain. Est-ce que cette disposition de l'esprit n'est pas profondément étrangère à Simone Weil dans la mesure où d'un côté elle est parfaitement confortable, presque bourgeoise d'ailleurs, et dans la mesure où de l'autre elle fait plaisir finalement à celui qui l'a brandi.
Oui, moi je ne dirais pas cela parce que elle n'a pas senti venir, par exemple, les événements de juin 36, et les grandes grèves sous le Front populaire. À ce moment-là, elle est déjà revenue largement de son idée de ses idées de prime jeunesse révolutionnaire. Et pourtant, elle écrit effectivement à Victor Bernard, qui est directeur technique des usines Rosières, avec qui elle a eu une correspondance. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que j'ai éprouvé une joie très pure à ces événements, tout en précisant que ça ne lui qu'elle ne se montre pas pour autant gonflée d'espérance. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas que ça va être la révolution et que ça va être le grand soir, mais en même temps, elle dit « des gens se sont relevés, se sont mis debout ». Les revendications matérielles qu'ils peuvent avoir, c'est une chose, mais il y a surtout avoir pu retrouver pendant la période de grève le sentiment de cette dignité. Et dans tous ses écrits de la condition ouvrière, elle insiste là-dessus. Finalement, quelques journées, c'est pas grand-chose, mais de dignité retrouvée et une joie pure. Donc elle ne parle pas de plaisir, elle parle de joie pure. C'est quelque chose de plus élevé que le simple plaisir.
Oui, le plaisir qui serait la seule suspension de la douleur.
Voilà, la révolution ne peut pas être une jouissance, ça, certainement pas. C'est d'où les conflits qu'elle avait avec Bataille. Par exemple, elle n'est jamais rentrée au cercle démocratique, communiste démocratique de Bataille, précisément parce que Bataille avait une conception, effectivement, n'est-ce pas, plus jouissive, on va dire, de la révolution.
C'est pas du tout la conception. Il n'avait pas l'un et l'autre le même rapport à la révolution. Ni à la sexualité. On va entendre avec vous, Robert Chenavier, justement un texte très fameux de Simone Weil, extrait de La vie et la grève des ouvriers métallos. Un texte fameux, Enfin on respire, c'est la grève chez les métallos. Écoutons Anne Brissier nous l'interpréter.
Enfin on respire, c'est la grève chez les métallos. Le public, on voit ça de loin, ne comprend guère. Qu'est-ce que c'est? Un mouvement révolutionnaire? Mais tout est calme. Un mouvement revendicatif? Mais pourquoi si profond, si général et si soudain? Quand on a certaines images enfoncées dans l'esprit, dans le cœur, dans la chair elle-même, on comprend. On comprend tout de suite. Je n'ai qu'à laisser affluer les souvenirs. Un atelier, quelque part, dans la banlieue, un jour de printemps, pendant ces premières chaleurs si accablantes pour ceux qui peinent. L'air est lourd d'odeurs de peinture et de vernis. C'est ma première journée dans cette usine. Elle m'avait paru accueillante la veille, au bout de toute une journée passée à arpenter les rues, à présenter des certificats inutiles. Enfin, ce bureau d'embauche avait bien voulu de moi. Comment se défendre au premier instant d'un sentiment de reconnaissance? Me voici sur une machine, compter 50 pièces, les placer une à une sur la machine, d'un côté, pas de l'autre, manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, en mettre une autre, encore une autre, compter encore. Je ne vais pas assez vite. La fatigue se fait déjà sentir. Il faut forcer, empêcher qu'un instant d'arrêt sépare un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite. Allons bon. Voilà une pièce que j'ai mise du mauvais côté. Qui sait si c'est la première? Il faut faire attention. Cette pièce est bien placée, celle-là aussi. Combien est-ce que j'en ai fait les 10 dernières minutes? Je ne vais pas assez vite, je force encore. Peu à peu, la monotonie de la tâche m'entraîne à rêver. Pendant quelques instants, je pense à bien des choses. Réveil brusque, combien est-ce que j'en fais? Ce ne doit pas être assez. Ne pas rêver, forcer encore. Si seulement je savais combien il faut en faire. Je regarde autour de moi. Personne ne lève la tête, jamais. Personne ne sourit. Personne ne dit mot. Comme on est seul. Je fais 400 pièces à l'heure. Savoir si c'est assez? Pourvu que je tienne cette cadence au moins. La sonnerie de midi, enfin. Tout le monde se précipite à la pendule de pointage, au vestiaire, hors de l'usine. Il faut aller manger. J'ai encore un peu d'argent, heureusement. Mais il faut faire attention. Qui sait si on va me garder ici? Si je ne chômerai pas encore des jours et des jours? Manger coûte un effort encore. Ce repas n'est pas une détente. Quelle heure est-il? Il reste quelques moments pour flâner. Mais sans s'écarter trop. Pointer 1 minute en retard, c'est travailler 1 heure sans salaire. L'heure avance, il faut rentrer. Voici ma machine, voici mes pièces. Il faut recommencer. Allez vite, je me sens défaillir de fatigue et d'écœurement. Quelle heure est-il? Encore 2 heures avant la sortie, comment est-ce que je vais pouvoir tenir?
Vous êtes prête?
Oui, je viens de mettre mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous.
Faites vite, mon chou, faites vite, il fait si beau.
9, 10, 11, 12,
midi! Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche.
Mireille et Jean Sablon qui disent exactement l'inverse de Simone Veil. Et après tout, pourquoi pas, hein, on a le droit aussi de la maltraiter un peu, Simone, ou de maltraiter peut-être le goût qu'elle a pour sa propre souffrance. Robert Chenavier est notre invité aujourd'hui. Robert Chenavier qui est notamment l'auteur de L'attention au réel, un livre excellent sur Simone Veil paru chez Michel Houx en 2009. Je renvoie également l'auditeur à La Condition ouvrière en édition Folio, dont vous faites, Robert Chenavier, la présentation et les notes.
En faisant le plaisantin, je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, lorsque l'horloge sonne.
Alors revenons cette fois-ci d'un point de vue plus théorique sur l'affrontement. Frontal, hein, vraiment, qu'il y a entre Simone Veil et le marxisme. Est-ce qu'en somme, la question que se pose Simone Veil, ça n'est pas la question de savoir comment transformer les conditions de travail de manière simplement à inverser la tendance, c'est-à-dire à rétablir la domination que l'individu a pour fonction propre d'exercer sur le système de production et sur la machine. En somme, que l'individu redevienne un individu. Est-ce qu'en somme, Simone Veil n'est pas une individualiste au sens où Jaurès, par exemple, pouvait l'être, ou peut-être Georges Palante?
Elle n'est pas individualiste, bien qu'elle insiste toujours sur le fait que la pensée est individuelle. Elle tient ça de son maître Alain, n'est-ce pas ? La faculté de penser ne se délègue point. Les collectifs ne pensent pas. Donc, où trouver de l'esprit ? Chez l'individu. Bon, que serait la société la moins mauvaise possible ? Elle ne parle jamais de société parfaite, elle parle de la société la moins mauvaise possible. Ce serait une société dans laquelle les individus se trouveraient le plus souvent en état de pouvoir penser ce qu'ils font. Or, à qui, finalement, qui est le mieux placé parmi les individus, les hommes, simplement hommes, enfin, comme disait Descartes, parmi les gens, j'allais dire, du commun, pour penser ce qu'ils font, sinon ceux qui travaillent. Le travailleur est l'être le plus complet qui soit, à condition qu'il n'y ait pas cette scission, cette division entre l'intellect et le corps, à condition qu'on ne maltraite pas le corps par les cadences et qu'on n'éteigne pas l'esprit, évidemment, par la division du travail. Et c'est en ce sens qu'elle est individualiste, si on veut. C'est-à-dire qu'il faut, dans une société, il faut trouver le moyen pour que l'individu puisse dominer toutes les conditions de sa vie et de son action. Et ça, c'est vrai que d'une certaine manière, ça ne peut pas être un produit simplement de la Révolution. C'est là probablement qu'est la différence avec le marxisme, c'est qu'elle dit il faut rétablir cela d'abord dans les usines avant de pouvoir penser peut-être éventuellement à une révolution. Car la différence entre l'ouvrier qualifié, parmi lesquels finalement les penseurs de la question sociale, j'allais dire, ont beaucoup recruté. Ils ont dit au fond, on a là des gens qui sont capables de penser ce qu'ils font, donc ils sont capables de penser au-delà de l'usine. Or, Simone Veil dit, moi, à l'usine, j'ai rencontré des gens déqualifiés, j'ai rencontré des gens opprimés, j'ai rencontré des gens dont l'activité intellectuelle et manuelle était brisée. Qu'est-ce que ces individus peuvent transporter de la vertu du travail et de l'intelligence du travail, il n'y en a pas, en dehors. Donc s'ils ne le peuvent pas, ils vont être victimes de toutes les idéologies les plus attrape-tout, ça va de l'impérialisme ouvrier au fascisme, et ils croiront que, n'étant rien, ils peuvent devenir tout. D'où l'allusion dans le premier texte, au dernier vers de la
première. Nous ne sommes rien, soyons tout.
Nous ne sommes rien, soyons tout. Pas possible. Comment peut-on, en étant rien et en restant rien, devenir tout? Comment peut-on, en étant faible et en restant faible, devenir fort? Elle dit, Marx n'a pas montré comment le prolétariat, étant ce qu'il est et restant ce qu'il est après une révolution politique, il pourrait, en effet, prendre la direction d'un mouvement révolutionnaire et d'une société parfaite. Ce n'est pas parce que les esclaves prennent le pouvoir qu'ils vont instaurer la société parfaite.
C'est ce qu'elle dit. Alors, c'est toute son analyse de l'impérialisme ouvrier, oui, qu'elle repère comme étant entretenu d'ailleurs par la propagande et qui provoque, dit-elle, chez le travailleur, un orgueil illimité par la pensée que sa classe est destinée à faire l'histoire et à dominer tout. Oui. Elle termine en disant « Il n'y a aucune difficulté, une fois qu'on a décidé d'agir, à garder intact sur le plan de l'action l'espérance même qu'un examen critique a montré être presque sans fondement. C'est là l'essence même du courage. »
Ah, c'est très important.
C'est magnifique.
C'est magnifique. C'est pour cela qu'elle admirait beaucoup Rosa Luxembourg, par exemple. Parce qu'elle n'était pas une révolutionnaire finalement se laissait mener par des illusions qui réchauffent, n'est-ce pas, comme elle le dit en
citant... Des espérances creuses.
Des espérances creuses qui réchauffent. Voilà, comme elle le dit en citant le vers de Sophocle. Et précisément, c'est cela qui est très curieux chez Simone Veil. C'est qu'elle dit, au fond, il ne faut pas être... Évidemment, il ne faut pas être impuissant dans l'action, et le mieux, ce serait de pouvoir vaincre. Mais si on ne peut pas vaincre, au moins ne mourrons pas sans avoir compris. Donc il faut au moins pouvoir comprendre. Et si on a fait une analyse de la situation qui montre que l'action telle que la conçoivent, par exemple, les révolutionnaires, les communistes ou les marxistes plus orthodoxes à l'époque, si on ne peut pas faire cette révolution, il faut admettre que il faut comprendre, mais peut-être pour ne pas agir, ou en tout cas ne pas agir immédiatement. Mais si on agit, parce qu'il y a toujours à agir contre l'oppression, c'est une obligation qui nous est faite, donc il n'est pas question non plus de
prier. Il ne faut pas agir au détriment de la pensée.
Il ne faut pas agir au détriment de la pensée. Et il faut conserver sur le plan de l'action une espérance que la pensée a peut-être démontré vaine.
De sorte
donc
que
c'est toute une éthique finalement.
Finalement, ce que vous appelez éthique, hein, c'est que le projet de Simone Veil, c'est presque d'exporter à l'échelle d'une collectivité ouvrière, en l'occurrence, l'ambition qui était celle d'Alain, de son maître, de penser et d'agir en même temps.
De penser et d'agir en même temps, alors en allant plus loin qu'Alain, parce que finalement, elle dit, Alain n'est pas allé suffisamment loin, il n'a pas été suffisamment radical d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas pensé l'oppression sociale. Et il n'a surtout pas pensé les formes contemporaines du travail. Mais elle a gardé quand même, effectivement, cette inspiration alinienne.
Et donc, de sorte que l'ambition de Simone Veil contre Marx, là encore, c'est d'ouvrir la voie à une forme de travail non servile. Elle dit ceci, qui est tout à fait étonnant, hein. Elle dit, celui qui inventerait une méthode qui permettrait aux hommes de s'assembler sans que la pensée s'éteigne en chacun d'eux, produirait dans l'histoire humaine une révolution comparable à celle apportée par la découverte du feu, de la roue et des premiers outils.
Oui. Je crois que c'est un héritage de Rousseau plutôt. Elle admire beaucoup Rousseau dans un texte qu'on a réédité d'ailleurs, qui est la note sur la suppression générale des partis politiques. Elle dit finalement les partis sont des machines à fabriquer de l'oppression, du totalitarisme, etc. Tous les partis sont totalitaires. Bon, on peut trouver ça excessif, mais ça revient à cette idée que les collectivités ne pensent pas. Bon, seul l'individu peut penser. Donc, au fond, la volonté générale chez Rousseau, c'était ça. C'était pas la volonté collective, c'était le fait que chacun, faisant taire en lui les passions, pourra finalement accéder à un mode de raison, et que chacun, en faisant autant, chacun pourra ensuite se rassembler et partager ce qu'ils ont en commun rationnellement. Indépendamment de ces passions qui donnent des groupements d'intérêts, qui donnent des réactions uniquement corporatistes, ou etc. Bon, alors au fond, quand elle dit quelqu'un qui inventerait une méthode pour que des gens se réunissent et puissent quand même penser par eux-mêmes, bon, c'est presque comme, je sais pas, comme la formule d'Aristote, quoi. Si on pouvait faire tisser les navettes, si les navettes tissaient toutes seules, on pourrait se passer des esclaves. C'est-à-dire que c'est presque un raisonnement par l'absurde chez elle, parce que dès que quelques personnes sont rassemblées et qu'elles forment un groupe, il y a risque, en effet, que le collectif l'emporte sur la raison qui n'est pas personnelle. Elle est individuelle, c'est-à-dire que la capacité de penser est personnelle, la raison est individuelle, mais en même temps, il faudrait arriver aussi dans les relations entre les hommes à une forme de raisonnement, de rationalité, de jugement politique qui est quelque chose d'impersonnel et qui puisse dépasser à la fois les intérêts personnels et aussi des intérêts qu'on dirait de communauté ou de classe. C'est au niveau de Rousseau. On a dit que le contrat social de Rousseau était valable pour une société sans classe. Elle se hisse souvent à ce niveau-là. Mais au fond, c'est ce qui permet aussi de mesurer l'écart entre ce qui est et puis ce qu'elle voudrait, quoi.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentra à l'usine, sans éventail. Du matin au soir, sa turbine, chère à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole.
Magnifique chanson de Michel Bernard, fille d'ouvrier, il faut le dire ici, au pluriel d'ailleurs, hein. Les filles sont au pluriel. Robert Chenavier est avec nous aujourd'hui, et c'est de Simone Veil et de la condition ouvrière que nous parlons, et également de son rapport au marxisme. Et puis on a fait un détour dans la conversation, c'est vous qui nous y invitez, Robert Chenavier, vers Rousseau. Revenons un instant sur cette comparaison que vous faites et que Simone Veil faisait entre sa façon de voir et Rousseau, enfin sur le rousseauisme éventuel de Simone Veil. Rousseau, qui est un amateur de transparence, hein, et qui a la nostalgie de cet état où les individus sauraient faire abstraction de leurs passions mesquines pour se réunir dans une volonté générale où, sans entamer leur liberté, ils parviendraient à une pensée collective. Rousseau est également celui qui, dans le contrat social, dit qu'un tel projet serait l'œuvre de Dieu. Un gouvernement véritablement démocratique n'est pas fait pour des hommes. Que fait Simone Veil? Savez-vous ce que fait Simone Veil de cette mise en garde que Rousseau lance à ses lecteurs? On a presque l'impression que Rousseau envoie un fax à Robespierre juste avant qu'il se prenne justement pour l'auteur véritable du contrat social. Oui. Est-ce que Simone Veil a un doute finalement sur tout ça?
Elle a un doute, certainement. Je dirais que en 1934, 35, 36, après son expérience de l'usine, elle a un doute terrible sur tout ça et sur la possibilité de tout ça. Alors, le franchissement chez elle d'un seuil spirituel lui permettra, à sa façon, de dire et de croire peut-être plus que Rousseau qu'il peut y avoir malgré tout une imprégnation de bien ou une imprégnation de spirituel ou de surnaturel dans la réalité sociale. Mais là encore, loin que ce soit seulement une espérance, bon, seul un Dieu peut nous sauver, ça n'est pas ça du tout chez Simone Veil. C'est comment étudier là aussi les conditions réelles et sociales avant tout, c'est ce qu'elle fait dans l'enracinement, qui permettrait au spirituel ou au surnaturel d'agir de façon infinitésimale finalement dans le monde d'ici-bas.
On retrouve d'ailleurs alors avec l'ambition, l'ambition. Est-ce qu'on peut résumer, pardon, Robert Chenavier, l'ambition de Simone Veil à l'expression du défi de l'incarnation. Est-ce qu'en somme tout le propos de Simone Veil, ça n'est pas constamment d'incarner ce qu'elle pense et ce dans la condition ouvrière comme dans l'expérience qu'elle fait de la mystique dont on parlera jeudi. Qu'en pensez-vous?
Ah oui, comme Platon, n'est-ce pas, qui était quand même son grand maître, c'est vrai qu'elle n'arrête pas l'itinéraire du sage ou du philosophe ou du saint à la sortie de la caverne, c'est-à-dire quand on a contemplé le bien et le vrai et le beau, eh bien il faut redescendre dans la caverne. Et elle le dit à plusieurs reprises, il faut faire de ce monde un monde réel, car avant que l'on puisse imprégner ce monde de bien, de vrai et de beau, ce monde n'est qu'une illusion. Donc c'est vrai que ça, c'est une forme de l'incarnation qu'elle pense, qu'elle veut pousser plus loin que Platon. Car quand elle dit dans un de ses premiers cahiers que Platon n'a dit que la moitié, parce qu'on sait quelle était la conception grecque du travail, Platon, évidemment, n'avait pas inséré dans sa philosophie le rôle du travail comme cette activité permettant d'atteindre une sorte de plénitude du contact avec le réel et de renouer le pacte, comme elle le dit, de l'esprit.
Non, mais en même temps, Platon l'univers. Est celui qui compare Dieu à un ouvrier.
Oui.
Il compare Dieu à un ouvrier. Dieu travaille chez les Grecs. Hein.
Oui. Je ne sais pas si on peut employer le mot « travail » à proprement parler, mais enfin, bon, pour Platon... Oui, mais c'est pourquoi est-ce qu'elle admire tant le timé? Elle dit le timé,
c'est le dieu ouvrier, hein, le timé.
C'est
hein.
Le dialogue de l'homme, effectivement, de l'homme rentré du sein, du sage rentré dans la caverne, et le dieu, effectivement, c'est le démiurge. Mais bon, elle voit dans le timé fournit des images, effectivement. Hein. Alors, quand on n'arrive pas à penser de façon totalement conceptuelle, et au fond, la question de l'imprégnation du monde d'ici-bas par le surnaturel, elle voudrait bien que cela puisse devenir une science. Elle dit finalement, le surnaturel aussi, il y a aussi de la nécessité. Il y a une connaissance surnaturelle et la connaissance de la manière dont le surnaturel agit, elle se réfère à Jean de la Croix, par exemple, pour dire il faut interpréter ça comme Jean de la Croix. Il a fait ça en chimiste, il a fait ça en physicien, qui essayait de comprendre comment le surnaturel peut imprégner, ou peut s'incarner, selon l'expression.
Comment comprendre son rapport au surnaturel et, par exemple, cette conférence sur la rationalisation des machines qu'elle fait en 1937 son discours sur la rationalisation des machines, oui. dans lequel elle en appelle à une nouvelle science des machines. Ah, oui, qu'est-ce que c'est, cette nouvelle science des machines?
Oui, alors je crois que la nouvelle science des machines, c'est une réaction au taylorisme, c'est une réaction à la rationalisation. Elle dit finalement que le taylorisme n'a absolument rien apporté sur le plan de la pensée technique et scientifique, d'accord en cela avec tous les ingénieurs de son époque qui critiquaient d'ailleurs le taylorisme, Belot, Charpie, etc. Elle dit finalement on ne peut attendre, on ne peut espérer poser les bases d'une véritable révolution, on va encore dire comme ça, que si on ne cherche pas qu'elle peut être une science du travail, ou une psychotechnique qui permettrait d'adapter les individus à la forme actuelle du travail, mais bien si on réfléchit à des machines qui permettraient de mettre à nouveau l'individu qui perçoit au centre et qui permettraient, alors d'un point de vue surnaturel, qui permettrait de percevoir, qui permettrait d'entrer en contact avec quelque chose de surnaturel dans l'acte même de travailler.
Une certaine subordination et une certaine uniformité sont des souffrances inscrites dans l'essence même du travail et inséparables de la vocation surnaturelle qui y correspond. Elles ne dégradent pas. Tout ce qui s'y ajoute est injuste et dégrade. Tout ce qui empêche la poésie de se cristalliser autour de ces souffrances est un crime. Car il ne suffit pas de retrouver la source perdue d'une telle poésie. Il faut encore que les circonstances même du travail lui permettent d'exister. Si elles sont mauvaises, elles la tuent.
Thank you.
Robert Chenavier, Simone Veil avait vu Les Temps modernes ?
Oui. Oui, oui, c'est un film qu'elle aimait, elle recommandait...
Je ne suis pas surpris par ça, c'est impossible oui. de ne pas aimer ce film, mais allez-y, pardon.
Oui, elle en parle dans une lettre à Victor Bernard, et puis dans une lettre à l'une de ses amies, je ne sais plus si c'est Albertine Thévenon, ou peut-être à son ancienne élève Dupuis, Simone Gibert, j'avoue que j'ai oublié, mais enfin oui, c'est un film qu'elle a connu.
Mais alors, c'est un film qu'elle a connu, et dans lequel, alors, comment cette personne qui donc essaie d'envisager une nouvelle science des machines, ou qui développe l'idée que le temps et le rythme sont le facteur le plus important du problème ouvrier, qui parle de la cadence comme d'une source d'esclavage. Précisément, rien n'illustre ça mieux d'ailleurs que les premières minutes des temps modernes de Chaplin. Comment Simone Veil, qui vit tout ça, qui comprend tout ça, qui voit tout ça, peut-elle par ailleurs parler à Victor Bernard avec le ton presque bienveillant de quelqu'un qui lui dit ben, l'idéal, c'est la coopération pure, qui lui dit quand les victimes de l'oppression sociale se révoltent, toutes mes sympathies vont vers eux, quoique non mêlées d'espérance. Quand un mouvement de révolte aboutit à un succès partiel, je me réjouis, mais je ne désire pourtant absolument pas susciter l'esprit de révolte, et cela moins dans l'intérêt de l'ordre que dans l'intérêt moral des opprimés.
Oui, alors évidemment,
c'est difficile.
C'est difficile, parce que si on isole en effet ce passage, on a l'impression que c'est très moralisateur, en effet. En réalité, je crois que si on le replace dans le contexte, il faut voir qu'elle réagit à un refus de Victor Bernard de laisser publier un texte de Simone Veil dans la revue d'entreprise qu'il dirigeait, qui était la revue Entre nous, en disant « ça va raviver la lutte des classes ». Or, elle dit en réponse à cela « ce n'est pas ce que je souhaite ». Et quand elle dit finalement « je ne veux pas susciter l'esprit de révolte », c'est parce qu'elle dit « je sais trop bien », c'est dans le même texte, « je sais trop bien que quand les révoltés sont vaincus et quand ils sont à nouveau finalement sous le joug de l'oppression, à quel point c'est difficile pour eux et à quel point se relever sera encore plus difficile. Donc si on peut se relever, si on peut lutter contre l'oppression et si on se rebelle, il faut le faire de telle manière qu'on puisse espérer quand même gagner quelque chose à cela. Or, dans le contexte, Simone Veil pensait que dans le contexte de ces années 30, 35, etc., c'est pour ça qu'elle n'a pas énormément cru, en effet, au Front populaire, et peut-être a-t-elle eu tort, on pourrait en effet lui reprocher, mais je crois qu'elle voyait une situation beaucoup plus bloquée, parce qu'elle ne voyait pas probablement comment... Elle voyait comment on pouvait sortir peut-être de situations sociales et politiques sur lesquelles on pouvait agir par des mesures juridiques ou par des mesures politiques, mais elle ne voyait pas comment on pouvait transformer le machinisme pour en faire quelque chose de libérateur. Comment allait-on sortir du taylorisme ? Et au fond, à son époque, qui pouvait percevoir comment on allait sortir du taylorisme. Elle ne pouvait pas prévoir ce que nous avons connu après la guerre.
C'est insensé quand même, Robert Chenavier. On en parlait avant le début de cette émission. C'est insensé ce que les propos de Simone Veil, cette femme révoltée, ressemblent à ce que Camus écrira dans L'homme révolté, quelques années plus tard, en 1951.
Oui, certainement.
C'est-à-dire quand même cette façon que Camus a de vouloir maintenir la révolte, c'est-à-dire la préserver des deux écueils qui sont d'un côté le conservatisme et de l'autre côté la révolution. Au nom même de la révolte, on lutte contre la révolution. Enfin, c'était le propos de Camus. Alors, chez Simone Veil, il y a peut-être plus de désir révolutionnaire, mais ça reste quand même à l'état de désir, voire de nostalgie vaguement agissante, non ?
Ah, de nostalgie agissante, hein, je ne suis pas sûr. Je crois qu'encore une fois, bon, elle n'aimait pas les espérances creuses qui réchauffent, mais elle croyait... C'était son côté cartésien, là aussi, et probablement alinien. Elle croyait au pouvoir de l'esprit et au pouvoir de la pensée. Donc elle pensait que si on s'efforçait de comprendre, on pourrait agir. Mais on ne peut pas agir sans avoir d'abord compris.
Elle dit, ce sera ma dernière question, en quel sens dit-elle que Marx n'est pas un bon auteur pour former le jugement, mais que Machiavel vaut infiniment mieux ? Vous avez peu de temps pour répondre à cette question.
Bon, alors, le grand reproche qu'elle fait à Marx, c'est d'avoir confondu deux choses, la nécessité historique et puis le bien. Comment la nécessité pourrait-elle engendrer le meilleur ? C'est la critique de l'idée de progrès. Quand elle dit, dans un texte concernant d'ailleurs la chute du Front populaire et Léon Blum, Machiavel est un meilleur auteur pour former le jugement, c'est parce que Machiavel a cherché à définir la politique, j'allais dire, comme une technique ou comme une physique. C'est-à-dire qu'il a envisagé les rapports humains comme des rapports de force, sans y introduire une morale ou une métaphysique. Donc elle a l'impression que la nécessité est étudiée de façon plus pure chez Machiavel que chez Marx.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest.
Merci infiniment, Robert Chenelier. C'était passionnant de discuter avec vous. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de L'attention au réel, Simone Veil, L'attention au réel, paru chez Michalon dans l'excellente collection Les Biens communs, donc paru en 2009. Et je renvoie encore une fois l'auditeur à La condition ouvrière de Simone Veil, un livre exceptionnel dont vous faites la présentation et les notes, et qu'on trouve évidemment en folio essai.
Des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.